Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Les titres, les vendeurs de différents marchés de Kinshasa ont manifesté encore ce mardi dans les rues de la capitale. Encore, ils disent non à la pratique du petit commerce et le commerce de détail par les expatriés. Le mot d'ordre de grève du syndicat n'a pas été totalement observé. Les pays les plus pauvres n'atteindront pas les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. C'est le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui le dit. La Troïka stratégique qui s'est réunie lundi autour du Premier ministre a examiné la question et a encouragé la poursuite et le renforcement des investissements du gouvernement sur fonds propres dans les secteurs sociaux et productifs. Le reportage de la semaine est consacré à la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année depuis 1992. Cette journée vise l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Panorama économique vous présente un reportage sur les activités rémunératrices de cette catégorie de personnes dans certains coins de Kinshasa. Et l'invité de Panorama économique cette semaine s'appelle Guy Bukasa. Il est assistant à la faculté de l'économie à l'université protestante au Congo. Monsieur Guy Bukasa, bonjour et bienvenue au studio de Panorama économique.
Bonjour Daniel et merci.
Panorama économique, le dossier.
Le résumé de la semaine avec ces trois dossiers. Le premier, les activités commerciales ont tourné au ralenti dans quelques marchés urbains de Kinshasa mardi dernier, François.
Disons, Daniel, qu'il s'agissait d'un mouvement de grève initié par les syndicats des vendeurs pour faire échec encore une fois à la pratique du petit commerce par les étrangers. Mais c'était un mot d'ordre pas très bien suivi, comme nous explique ici Nadine Fluensimba dans ce reportage.
Nous avons commencé notre ronde au marché central. Ici, ceux qui vendent le long du marché n'ont pas du tout respecté le mot d'ordre lancé par leur syndicat. Par contre, certains étalages dans les différents pavillons sont quand même restés inoccupés. La même situation a été observée au marché Zigida, Gambela et Sinkin dans la commune de Bandalungwa. Au contraire, au marché Mola, ceux qui ont respecté le mot d'ordre sont à compter du bout de doigt. Les vendeurs rencontrés sur place justifient leur présence par le fait que le Congolais vit du jour au jour. Et ce n'est pas la première fois qu'ils observent cette grève qui n'a toujours pas donné des résultats probants. Un avis qui n'est pas du tout partagé par les délégués syndicaux. On écoute l'un d'eux rencontré au marché central.
Jusqu'à présent, les grossistes ont des détails, ont des détails.
En réaction, le directeur de cabinet du ministre de l'économie souligne que cet arrêt de travail n'avait pas de raison d'être. Daniel Moulenda explique.
Quand vous trouvez un étranger devant une table au grand marché, est-ce que vous pouvez l'interdire de faire son travail? Nous avons dit à ces gens, procédons d'abord à l'identification. Parce que vous allez trouver un étranger sur une table, mais il est au service d'un Congolais à qui on a attribué la table. Il ne faut pas qu'on laisse passer des sentiments de xénophobie. Ils ont posé une requête. Nous avons, avec les agents du ministère de l'économie de l'hôtel de ville, fixé avec une méthodologie pour qu'on vérifie qui est au marché, qu'est-ce qu'il fait. Vous devez savoir que ce n'est pas toutes les filières qui sont interdites aux étrangers.
C'est donc un dossier à suivre.
Deuxième dossier de la semaine, Daniel, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a tranché. Les pays les plus pauvres de l'Afrique n'atteindront pas les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Ceci est contenu dans le dernier rapport de cette structure de l'ONU, la semaine dernière, examiné lundi lors de la réunion de la Troïka stratégique à la primature. La Troïka a encouragé la poursuite et le renforcement des investissements du gouvernement sur fonds propres dans les secteurs sociaux et productifs. Daniel Tamizoni nous en dit plus.
la quasi-totalité des pays les plus pauvres, dont la RDC, n'atteindront pas les objectifs du millénaire pour le développement en 2015, et cela malgré leur croissance vigoureuse. Pour ces pays, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement préconise des actions en faveur des investissements publics, la mise en place de politiques industrielles et l'augmentation de la demande interne. Et la Troïka stratégique qui a examiné les recommandations de ce rapport hier estime que la stratégie des parcs agro industriels participe déjà à la vision d'industrialiser progressivement le pays. Cela garantit la création d'emplois, surtout dans les milieux ruraux, comme facteur de lutte contre la pauvreté et de stabilisation des populations. Autre sujet de la conjoncture examiné par la Troïka stratégique, les matières premières et les produits pétroliers. Au 27 novembre 2014, le cours du cobalt a rebondi, passant de 31 200 à 31 645 dollars, soit une hausse de 1,41%. Les prix du cuivre et de l'or, par contre, ont baissé. La tonne métrique du cuivre est passée de 6714 à 6648 dollars, soit un recul de 0,98%. L'once d'or s'est dévalué de 0,30%, passant de 1193 à 1189 dollars américains. Au 28 novembre, les prix des produits pétroliers sont aussi en baisse, aussi bien sur le marché de Londres qu'à New York. À Londres, le baril est passé de 80,59 dollars à 70,20 dollars américains, et à New York, le baril est passé de 76,7 à 66,10, soit une baisse de plus de 13% dans les deux cas. Tous les segments de cadre macroéconomique en RDC sont sous contrôle, rassure la Troïka stratégique. Le solde général du compte général du Trésor public au 28 novembre est déficitaire de 26,6 milliards de francs congolais. Le Trésor avait enregistré 269 milliards de francs congolais de recettes contre des dépenses de 296 milliards de francs congolais. Et selon le communiqué final de la Troïka, ce déficit devrait se résorber avec les recettes complémentaires du mois de novembre qui ne sont pas encore comptabilisées.
Voilà, le troisième et dernier sujet nous amène dans les entreprises, et c'est Airtel RDC qui a célébré jeudi 4 décembre son 14e anniversaire depuis le lancement le 4 décembre 2000 en RDC de son premier appel téléphonique. Airtel RDC dit avoir créé au moins 430 emplois directs et plus de 5000 autres indirects. Suivez plutôt cet entretien avec Dandy Ella, responsable de relations publiques de Airtel RDC.
Comme vous venez de le dire, avant d'expliquer c'est quoi Airtel Money, effectivement notre joie, c'est que ce 4 décembre, ça fait 14 ans jour pour jour que le réseau est opérationnel en RDC, parce qu'effectivement c'était le 4 décembre 2000 que le signal a été lancé. Donc c'était déjà ça le sens de la rencontre que nous avons
aujourd'hui. Ça fait combien d'abonnés aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est presque 9 millions d'abonnés actifs qui sont dans le réseau. Pour revenir à Airtel, Mfalanga Airtel Money, effectivement nous sommes aussi en train de célébrer, donc en fait il y a double célébration, à part les 14 ans, nous sommes en train de célébrer le franchissement du cap de plus d'un million d'utilisateurs actifs de notre service Mfalanga Airtel. Comme vous le savez, il y a deux ans, nous avons lancé en premier ce service, c'est-à-dire le mobile banking ou le mobile money, comme on l'appelle, c'est-à-dire le téléphone devient le porte-monnaie électronique. Et plus de deux ans et demi après, Airtel a la joie d'annoncer qu'ils sont plus d'un million aujourd'hui chaque mois à faire des transactions, soit envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, faire des achats, payer les frais scolaires, payer les factures d'eau, électricité. Et pour nous, Airtel, c'est un cap important parce que la RDC est maintenant parmi les rares pays qui ont dépassé ce cap, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils ne sont même pas au nombre de 10. Et sur la liste de ces pays-là, rares en Afrique, qui ont déjà dépassé ce cap, la RDC est comptée dedans grâce aujourd'hui à Mfalanga Airtel.
Airtel gagne quoi dans toutes ces opérations en assurant ces transferts par téléphone?
Ce qu'il y a d'abord, c'est que c'est comme dans les banques, hein. C'est-à-dire il y a des taux de transfert qui ne sont pas énormes, mais effectivement il y a des frais de transfert que les gens payent, qui sont effectivement très moindres par rapport aux autres régies financières.
C'est que le e-banking aujourd'hui c'est plus facile, c'est moins coûteux que les messageries financières.
Bien évidemment, en termes de taux, vous pouvez le vérifier. Vous êtes journaliste, allez le vérifier, vous allez voir qu'en termes de taux, nous sommes très loin, moins cher. Parce que nous avons compris que nous vivons dans des pays où les populations n'ont pas assez de moyens et c'est inconcevable aujourd'hui de mettre des taux élevés. Donc pour nous, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de gagner, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de faciliter la vie. Et c'est pourquoi les taux qui sont utilisés, et nous espérons que ça va rester ainsi, c'est des taux pour aider les populations, pour aider nos abonnés, mais aussi les populations congolaises à avoir accès à ce service à un taux assez faible.
Quelques avantages de ce service avant de terminer?
Oh, les avantages, il y en a beaucoup. Je peux vous donner deux ou trois. Le premier avantage, c'est que de chez vous à la maison, vous ne pouvez ne pas vous déplacer, mais faire vos achats. Donc, c'est-à-dire, vous êtes opérateur économique, vous passez des commandes et vous envoyez de l'argent. Vous êtes à Kinshasa, vous envoyez à Lubumbashi ou à Goma et on vous transfère ce que vous avez acheté. Autre avantage, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de parents dont les enfants sont en études dans d'autres villes du pays, mais qui envoient les frais scolaires à travers Airtel Money. Aujourd'hui, avec Airtel, Mfalanga Airtel Money, vous pouvez 24 heures sur 24, chez vous à la maison, vous êtes à court d'unité. Au lieu de chercher un revendeur, vous pouvez acheter vos unités à la maison, même à 2h, 3h du matin, vous comprenez ce que ça représente. Aujourd'hui, avec le Mfalanga Airtel, vous avez la sécurité, vous n'avez plus besoin de transporter beaucoup de cash, vous mettrez votre argent dans votre téléphone, et même si le téléphone est perdu, vous n'avez rien à craindre parce qu'il y a un code, personne ne peut l'utiliser, donc c'est la sécurité aussi qui est garantie. Ça, je ne cite que quelques exemples, il y en a beaucoup.
Mais seulement que Airtel, comme d'autres opérateurs téléphoniques en RDC, ne sont pas partout, c'est que c'est aussi difficile de transférer de l'argent dans tous les coins de la RDC.
Justement, ça c'est l'un des points essentiels pour nous, Airtel, parce qu'il y a tout un plan de développement. Aujourd'hui, le taux de couverture, effectivement, dans le pays, si on prend l'ensemble, c'est 25 millions d'utilisateurs, 30% pratiquement, si on peut le dire. Notre objectif à nous, Airtel, c'est de pouvoir élargir. Et d'ailleurs, pour votre information, Airtel a doublé ses investissements en RDC, toujours dans le souci de pouvoir élargir le nombre de ses abonnés. Et nous espérons qu'en tout cas, dans les 2-3 prochaines années, le groupe Airtel a décidé vraiment de combler le déficit, parce qu'il y a eu un retard dans les investissements et les moyens ont été donnés. Et nous espérons qu'à partir de 2015, nous allons faire en sorte que, en tout cas, qu'il y ait un boom pour que, pourquoi ne pas passer à 40 millions, 50 millions d'ici les 2-3 prochaines années. Et Airtel compte y contribuer énormément.
Monsieur Dandy, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, nous retrouvons notre invité, je vous l'annonçais, Guy Boukassa. Et avec lui, nous allons brosser un à un les sujets que vous venez de suivre dans ce résumé de la semaine, dans ce dossier que nous vous avons présenté. Nous commençons par le petit commerce. Les vendeurs de Kinshasa, Guy, disent ils sont descendus dans les rues pour encore protester. Sûrement, vous êtes dans ce secteur. Vous savez qu'il y a une loi qui interdit le petit commerce aux expatriés. Mais ça souffre toujours d'entrée en application.
Tout à fait, Emmanuel. Les revendications de nos amis commerçants sont tout à fait fondées. La loi est claire, la pratique du petit commerce est certes réservée aux nationaux, mais il faut noter que les textes viennent après les faits. Les textes sont édictés après avoir observé certains faits. Cette loi a été certes établie il y a plusieurs années et comme nous le remarquons tous, elle souffre de son respect strict. Mais alors là, il revient, comme venait de le dire le directeur de cabinet du ministre de l'économie, il va falloir donc ici une remise en question du contenu de cette loi. Parce que les faits sont tels que elle existe la loi, mais jusqu'à présent, on se rend compte que les plaintes sont les mêmes. C'est presque au même moment de l'année, chaque année, qu'on revient sur les mêmes plaintes. Et ma lecture
c'est
des faits...
C'est qu'il y a problème.
Oui, il y a un souci. Et le souci, à mon avis, doit être examiné entre les dirigeants, les commerçants, mais aussi ces commerçants étrangers qui sont accusés par les nationaux. Il y a un problème. Moi, je pense que si l'État congolais, jusqu'à présent, laissait le temps à ces expatriés d'aller jusqu'à toucher à cette catégorie de commerce,
oui,
d'activité. Je me dis donc ici que peut-être que dans une certaine mesure, ces services qui est ici réservé aux nationaux n'est pas rendu correctement. Parce qu'il faudrait noter aussi que par moment, nous rendons des services, mais le traitement qui est infligé à ces employés qui sont traités par ces entreprises nationales est-il décent ? Est-il convenable ? C'est à ce niveau qu'à mon avis, je pense qu'une remise en question devrait être faite de manière à revisiter les textes. Les textes doivent être adaptés, à mon avis.
À la situation actuelle.
À la situation
mais
actuelle.
Ce qui gêne plus le petit commerçant, c'est que vous voyez ces expatriés, ils vendent en gros et en détail. Et les petits commerçants achètent chez les grossistes qui sont expatriés, qui vendent également en détail. C'est ce qui gêne sur terrain.
François, je pense qu'à ce niveau, il va falloir faire un tout petit peu attention. Et là, je vais devoir m'accrocher à ce que venait de dire le directeur de cabinet du ministre de l'économie. Mmh. Attention, il y a des nationaux qui emploient des expatriés aujourd'hui. Pour nous, il suffit pour certains de voir une peau blanche sur une table. On pense que c'est lui qui est propriétaire, c'est lui qui est détenteur du numéro affilié à cette table. Non, il y a des nationaux qui emploient des expatriés. Il faut vérifier. Raison pour laquelle, moi, je dis encore que le travail n'est pas simplement de modifier la loi. Il va falloir d'abord
inspecter le secteur et voir quelles sont les difficultés qu'il y a et identifier exactement qui est commerçant, grossiste, qui peut le faire et qui ne doit pas le faire. Parce qu'il ne suffit pas de voir un blanc et dire que c'est à lui. Non. On peut trouver un Indien, on peut trouver un Chinois, mais qui est employé par Monsieur X qui est congolais.
Le travail d'identification, du recensement des opérateurs qui se fait au niveau des marchés urbains de Kinshasa, je pense que c'est un travail à soutenir qui ne doit pas s'arrêter en si bon chemin.
C'est une nécessité, à mon avis. C'est une nécessité. Parce qu'on ne peut refaire ces textes, on ne peut solutionner ce problème que si l'on sait quel est le taux des nationaux qui pratiquent le commerce comme tel, et aussi les étrangers. Une fois qu'on a identifié, on saura à ce moment-là refaire la loi de manière à ce qu'elle soit adaptée à la réalité pour satisfaire tout le monde.
On en vient alors au deuxième dossier, c'est celui des OMD. La conférence des Nations Unies pense que les pays pauvres de l'Afrique n'atteindront pas les objectifs malgré le temps qu'on leur a donné pour 2015. En tout cas, ils ne vont pas arriver malgré la croissance vigoureuse dont on parle en Afrique.
C'était inévitable. Les OMD sont définis depuis 2000, à moins que je ne m'abuse. Mais c'était inévitable. Moi, je pense que...
Mais 15 ans, quand même, c'était beaucoup, Guy.
Oui, 15 ans, d'accord. Mais quelle était la profondeur du mal dans ces différentes économies qu'on accuse aujourd'hui de ne pas être à mesure d'atteindre ces objectifs? Les objectifs, on peut se les fixer, mais... Atteindre les objectifs est une chose.
À 100%, c'est difficile.
Voilà, atteindre les objectifs est une chose, mais fournir des efforts en est une autre. Et moi, je pense que les pays ont quand même fourni des efforts, la RDC notamment. Je pense que si l'on comparait les chiffres tels qu'ils se présentaient il y a 14 ans et tels qu'on les présente aujourd'hui, je pense qu'il y a des avancées. Moi, je ne pense pas qu'il serait logique de demander à des pays, à structures différentes, à des pays qui ont de niveaux de difficultés différentes, d'atteindre les mêmes objectifs à une échéance commune. L'échéance doit être adaptée au niveau de développement de chacun des pays. Moi, je ne pense pas qu'il est logique aujourd'hui, après 14 ans, de faire une remarque globale, de dire que non, voilà, tel pays, en comparant des pays qui n'ont pas le même niveau d'économie, autant de...
Vous souscrirez pour un examen au cas par cas.
Exactement.
Chaque pays passe à la barre et puis on évalue sa situation.
Exactement, c'est comme ça que l'évaluation doit être faite. Parce que, dites-moi, un élève qui a fait 80% en 2006 et il en fait 82% en 2007, certes, il a évolué, il a fait 80%. Mais un autre qui en a fait 30% en 2006 et en 2007, il en fait 57%, pour moi, c'est celui qui passe de 30% à 57% qui a mieux évolué.
Et selon vous, il y a des pays qui ont fait des progrès
La RDC notamment. Il faut pas l'ignorer.
La mortalité infantile, par exemple, a baissé.
Oui, et il faut le noter.
La mortalité néonatale également.
Exactement.
Il y a quelques avancées, certainement.
Exactement. Notons aussi avec le OMD qui est l'accès à l'éducation partout. Il y a des grands efforts qui sont fournis. Moi, je pense que cette analyse doit être faite au cas par cas. Généraliser l'analyse insère un biais. C'est un tout petit peu biaisé, à mon sens.
Et nous en venons, monsieur l'assistant, au troisième dossier de la semaine. C'était le mobile banking avec Airtel qui a célébré ses 14 ans et puis les 2 ans depuis qu'elle a lancé le service financier par le téléphone mobile. Vous êtes également fan, j'espère, de la nouvelle technologie.
Tout à fait. Il serait irréfléchi à nos jours de ne pas soutenir ces avancées de la technologie parce que nous en profitons tous. Alors, pour ce qui concerne le mobile banking que RTL a eu à lancer, moi je pense que nous notons tous aujourd'hui que la technologie évolue. Et surtout en termes de finances, la sécurité, la fluidité, la flexibilité, la rapidité surtout dans ces services sont les éléments qui constituent ce sont ces éléments qui motivent les acteurs économiques à souscrire à des services.
Je voulais me demander, parce que je sais qu'il n'y a pas que Airtel qui pratique le mobile banking, il y a également les autres opérateurs comme Tigo, Vodacom, il y a également Orange, je ne sais plus moi. Et tout ça, ils utilisent le portefeuille électronique. Ouais, je me demande, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à faire une opération de transfert de fonds via le téléphone?
Bien sûr,
je le fais. Et tu passes aussi par la messagerie financière. Comment tu compares les deux opérations? Non, Laquelle est plus rapide?
Il est évident que le mobile money est préférable. Le mobile money est préférable parce que je peux faire mes transactions sous la pluie, en restant à la maison, sans pourtant m'exposer à l'intempérie, sans pourtant dépenser des frais supplémentaires liés à mon déplacement, le transport par exemple. Donc le mobile money est bénéfique pour les opérateurs.
Mais alors pour ceux qui sont dans des coins reculés, où il n'y a pas de réseau, en fait il n'y a pas des banques, comment on fait cette comparaison?
Il n'y a pas de banque, ouais. Il n'y a pas non plus de téléphone. Et en tout cas, François, j'ai posé cette question hier au DG de RTL.
RTL, ouais.
Il y a des coins où il n'y a pas de banque, il y a des coins où il n'y a pas de téléphone.
On n'y a rien.
Mais comme vous faites la promo de services financiers par le téléphone, mais il y a des coins où il n'y a pas de téléphone.
Ça pose problème.
Et nous avions reçu la ferme assurance de DG de RTL que son entreprise a doublé ses investissements pour les 2-3 années qui viennent. Et RTL va tenter d'aller un peu là où les autres ne sont pas encore arrivés, à aller couvrir le coin qui ne sont pas encore couverts jusque là. Et je pense que c'est ça aussi le souhait de notre assistant qui est notre invité aujourd'hui, qui commente l'actualité de la semaine avec nous. Il faut une couverture assez totale pour que de partout où on se trouverait,
le
qu'on
système soit profitable.
Oui, que le système soit profitable.
C'est évident parce que on ne pourra pas vanter le système après 10 ans s'il ne réussit pas à assurer une couverture totale. Là aujourd'hui, on ne peut que le vanter parce que il est naissant dans notre environnement. Mmh. On se dit c'est très bien dans la capitale et dans certaines provinces où il est déjà opérationnel. Mais si après 5-10 années, l'on se rend compte que certains coins, même les plus reculés, ne sont toujours pas bénéficiaires de ce service, là il y aura un problème, on va tous taper sur la table.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Et maintenant, le reste de l'actualité économique de la semaine en plus. Bref, et dans cette ronde qui commence par Bounia, en province orientale, lundi, nous avons évoqué environ 2 hectares de champs de riz qui ont été dévastés par des hippopotames au groupement Rogalé en collectivité de Zaki. C'est à environ 300 kilomètres au nord de Bounia, en territoire frontalier d'Arua. Et ces hippopotames, apprenons-nous, sortent de la rivière Atima et selon la société civile locale, les populations paysannes de Rogalé plaident pour le refoulement des hippopotames qui ravagent fréquemment les cultures vivrières dans les champs.
Entre-temps, à Kapolowé, dans le territoire de Kamouvé, par contre, ce sont plusieurs hectares de champs de maïs qui sont ravagés par le rat. Il s'agit du maïs qui vient d'être semé. Les agriculteurs craignent qu'ils ne travaillent à perte cette saison et que les récoltes ne soient médiocres. L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage du territoire de Kambové appelle les agriculteurs à mélanger les semences de maïs avec le raticide pour lutter contre ces rongeurs. En plus bref, également à Béni-Nord-Kivu, les populations se plaignent des conséquences du couvre-feu instauré par le gouvernement provincial. Cette mesure interdit aux populations d'accéder à leurs champs au-delà de 4 km des centres urbains, ces zones étant considérées comme les zones opérationnelles. Comme conséquence, une flambée de prix de produits agricoles sur les marchés locaux. L'administrateur du territoire indique qu'une évaluation de cette mesure sera faite d'ici 2 semaines afin de voir s'il faut alléger ou maintenir la décision.
Non loin de là, au sud Kivu, une dizaine d'agences de fret aérien ont déclenché un mouvement de grève depuis mercredi. Les responsables de ces agences contestent une taxe qui, selon eux, a été supprimée par le gouvernement central mais qui continue à être perçue par la DPM. Cette grève constitue un manque à gagner non seulement pour les opérateurs économiques mais également pour les populations des territoires desservis par ces agences.
Au Katanga, le directeur provincial adjoint de la Direction générale des douanes Axis DGDA a répondu mercredi aux préoccupations soulevées par les députés provinciaux suite à l'incendie survenu au poste douanier situé au village Whisky à une dizaine de kilomètres
de Kasumbalesa. Au cours de cet incendie, plus de 40 camions transportant les marchandises ont été calcinés.
Pendant ce temps, et nous allons terminer, dans le Bas-Congo, les députés provinciaux ont adopté mardi le projet dédié portant reddition des comptes pour l'exercice 2013. Il se chiffre à plus de 240 milliards de francs congolais en recettes comme en dépenses. C'est la ministre provinciale du budget qui l'a présenté devant les élus du Bas-Congo.
Panorama économique, reportage.
La journée des personnes vivant avec handicap est célébrée le 3 décembre de chaque année. Elle a été proclamée en 1992 par les Nations Unies pour favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Et justement, par rapport à l'accès à la vie économique, nous vous rafraîchissons la mémoire avec ce reportage que vous avez suivi mercredi, reportage consacré aux activités rémunératrices de cette catégorie. Des personnes, François Kadima avait rencontré quelques-uns au port de l'ex-Onatra et voici le reportage de la semaine.
Nous sommes au port de l'Onatra où certaines personnes vivant avec handicap font le commerce entre Kinshasa et Brazzaville. Mais depuis environ 9 mois maintenant, les activités tournent au ralenti depuis que les deux Congos ont conditionné le passage sur cet endroit par l'obtention d'un passeport et d'un visa. Diego Osenge, vendeur de marchandises, souligne qu'il n'y a pas de trafic actuellement.
Nous faisions les activités à travers Brazzaville, Kinshasa. Les biscuits, les savons, les sucres, nourrir nos familles. Actuellement, il n'y a pas de trafic.
Cette autre dame, vendeuse de pagne, nous explique aussi sa situation.
Je suis au beach et j'ai toujours traversé pour vendre des pagnes et c'est la seule activité que j'exerce. Mais depuis que la ligne est fermée, je ne fais plus rien pour avoir de l'argent alors que je suis mère de famille.
Sur notre passage, nous avons également rencontré Moulenda. Après avoir décidé de faire la cordonnerie, il demande l'aide financière au gouvernement.
Les personnes vivant avec handicap sont négligées. Nous sommes exonérés de certaines taxes, c'est vrai, mais nous demandons aussi de l'aide financière de l'État parce que nous n'en bénéficions pas.
Signalons que pour cette année, la Journée internationale des personnes vivant avec handicap est célébrée sous le thème « Développement durable, la promesse de la technologie ».
Et au Nord Kivu, ces personnes vivant avec handicap plaident pour la promotion de leurs initiatives et leurs efforts. Elles l'ont dit justement à l'occasion de la célébration du 3 décembre par l'entremise de Hortense Maliro, représentante légale de l'Association pour l'immigration sociale des personnes vivant avec handicap au Congo. Vous l'avez écouté jeudi sur nos antennes et c'est le dernier virage du panorama économique par ce reportage de la semaine. Panorama économique sur Radio Okapi a reçu Guy Bukasa qui est notre invité et c'est lui qui commente l'actualité de la semaine, les personnes vivant avec handicap. Il faut un regard aussi tourné vers eux pour qu'elles se prennent en charge elles-mêmes.
Bien évidemment, Daniel, il va falloir nécessairement que le gouvernement tente de mettre en place des mesures, mettre en place des stratégies pour tenter de faire valoir les activités de ce type, de cette catégorie de personnes. Parce qu'en effet...
Elles ne sont pas que de personnes mendiantes.
Mais non.
Elles ont des qualités, ces
elles
gens.
Elles ont toutes les qualités.
Voilà.
Des études récentes prouvent que ce type de personnes développent certaines aptitudes intellectuelles que les personnes n'ayant pas d'handicap physique ne développent
pas.
Ouais. Parce qu'elles savent qu'elles sont physiquement handicapées et la seule ressource qui leur reste, c'est l'intellect. Et elles forgent leur intellect. Et si nous négligeons ce type de personnes, attention, nous négligeons une potentialité humaine. Parce qu'en économie, lorsqu'on parle du capital humain, dans ce capital humain, on ne dissocie pas les personnes vivant avec handicap physique, les celles vivant avec celles vivant normalement.
C'est que le capital humain ne tient pas compte de l'état physique de la personne.
Non, le capital humain tient compte de la capacité de cette personne à apporter des solutions. Et si on en a vu plusieurs, il y a plusieurs exemples à travers le monde. Il y a des personnes vivant avec handicap qui résolvent des problèmes. Il y a des personnes vivant avec handicap qui sont chefs d'entreprise. Et pourquoi pas chez nous ?
parce que nous n'avons pas pu les prendre toutes, j'ai rencontré un qui a étudié, il est licencié en management. Il voilà. me dit que quand il va chercher de l'emploi, il n'arrive pas à avoir du travail parce qu'il n'est pas considéré.
Moi, c'est aussi un problème.
C'est une discrimination.
En tout cas,
c'est une erreur de gestion.
C'est très sérieux.
C'est une erreur de gestion, à mon sens. Parce que ce type de personnes, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux ou trois. Il y a l'un de, je ne citerai pas les noms, mais il y a l'une de sociétés de télécommunications de la place qui a pour pilier dans sa technique une personne vivant avec handicap physique. Et imaginez qu'on lui ait infligé un traitement tel que vous venez de le souligner là où il arrive simplement parce qu'il est handicapé physiquement, on le repousse d'emblée. Vous ne trouvez pas que ça aurait été une grosse erreur?
Et c'est par là que nous allons terminer l'émission de cette semaine. Panorama économique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à notre assistant Guy Bukassa. Je vous le disais, il est assistant à la faculté de l'économie à l'Université protestante au Congo. J'espère que c'est ça.
Bien évidemment.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et tout le plaisir pour nous sera de vous retrouver encore dans ce studio pour discuter de l'actualité économique de la semaine.
Merci et à la prochaine.
Et à vous, chers auditeurs, merci de votre attention à Panorama économique que je vous convie de retrouver sur www.radiocapi.net toute la semaine et lundi déjà, Écho d'économie revient. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous, à la prochaine.